Je suis Anne Boucharla, bienvenue dans les Grands Samuses, transmission intergénérationnelle par l'audio. Le vin et les plaisirs de la table sont vos deux passions, Jean-Paul Masselin, dans lesquelles vous mettez toute votre fougue et verve. En 1994, en ouvrant votre restaurant à Blesles, en Haute-Loire, vous avez appris à découvrir les merveilleuses cuvées auvergnates qui étaient presque méconnues, même des Auvergnats. Vous avez exploré pendant 4 ans ce paysage viticole, en même temps que la gastronomie du terroir. Après une belle tranche de vie dans les cuisines de restaurants, passé à mijoter de bons petits plats, une formation Wine and Spirit Education Trust, vous prenez un plaisir communicatif à conseiller vos clients dans cette cave versaillaise, aux caves du château, place Hoche. Quel plaisir de tendre l'oreille en poussant la porte de la boutique et de vous écouter entonner l'histoire de telle cuvée, du travail des vignerons et de la terre. Et oui, nous ne sommes pas à l'Intermarché, vous prenez le temps de conseiller. Vos clients sont curieux de découvrir un peu plus notre patrimoine culturel grâce à vous. C'est avec un bel enthousiasme que vous racontez vos découvertes et connaissances acquises au fil des ans. Pour finir votre carrière dans la passion est très jouissif et vous procure un sentiment de plénitude. Vous avez compris, chers auditeurs, ce soir nous parlons de vin, de terroir et de passion. Bonsoir Jean-Paul Masselin.
Bonsoir.
Je suis ravie que vous soyez avec nous ce soir.
Moi aussi, je suis ravie d'être là.
Alors, votre père vous a un petit peu aiguillé vers la restauration en vous disant « Tu n'as qu'à être cuisinier, au moins tu mangeras tous les jours ». Vous avez donc écouté votre père.
Eh oui, naïvement au départ, hein, parce que bon, j'avais pas d'idée préconçue de ce que je voulais faire. Un petit côté un petit peu en retrait, un peu timide, un peu introverti, faisait que j'avais pas envie de me mettre en avant. Et puis ben, mon père, il fréquentait à l'époque des hôtels, des restaurants toute l'année. Il était vraiment, d'un point de vue client, bien sûr, il était passionné par ça. Et puis ben, son fils aîné, il l'a un peu aiguillé vers ça, quoi, voilà, d'une façon... Pas formel, mais incitatif, quoi. Et puis j'ai obéi.
Et vous avez obéi, bien sûr. En bon fils. Et c'est en travaillant dans un hôtel-restaurant près de Cergy Pontoise que le directeur vous embarquait choisir les vins. C'est voilà. Ça qui accompagnait les plats.
Tout à fait.
Et là est née
voilà. Là est née la vraie passion pour le vin, à fréquenter des grands noms. Alors au début, à porter les caisses, ce qui est beaucoup moins forcément passionnant que de déguster les bouteilles. Mais au fur et à mesure d'entendre parler des crus, des vins, d'entendre mon directeur qui me disait il faudrait acheter ça, il faudrait en prendre un peu. Et puis moi, de faire l'effort de dire qu'avec tel plat ou tel plat, ça serait bien et déguster, puis de se renseigner, et puis la passion, et puis l'habitude.
La curiosité.
Voilà, en fait, qu'au bout de 10 ans, j'étais vraiment dans une démarche d'intérêt pour le vin qui était au-delà de ce qu'on pratique en général dans le milieu de la cuisine.
Oui, d'accord. Vois. Vous aviez pas mal de connaissances.
Oui.
Et vous avez aussi imaginé des activités ludiques pour vos clients.
Oui, ça, c'est dans la deuxième partie de ma carrière, quand j'ai quitté la restauration traditionnelle pour entrer dans le milieu du séminaire d'entreprise, séminaire de luxe, où j'ai, disons, créé le concept d'une restauration dans une grande entreprise de séminaire, qui existe encore à l'heure qu'il est. On m'a demandé qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour faire plaisir à nos clients. Donc j'ai créé le concept de restauration, et mes connaissances en vin ont permis que je fasse à côté des animations incentives le soir, en guise d'apéro ou en guise d'animation comme ça, voilà, ouais. Avec des animations de vin, des dégustations, des petits jeux sympas, voilà.
L'idée de transmettre vos connaissances, parce que c'est ça qui vous anime, en fait.
Disons que vis-à-vis des gens avec qui on travaillait, c'est-à-dire les clients de ce séminaire, c'était surtout dans un but de renforcer les équipes. Il y avait un côté un peu brainstorming, un peu renfort d'équipe, où les gens, ils arrivaient d'un séminaire comme ça, où ils n'avaient pas l'intention de trop se connaître. et après une bonne dégustation dans une cave autour de quelques vins, cuvées bien senties et puis un peu de charcuterie,
ça
libérait les esprits et en général les équipes se retrouvaient beaucoup plus soudées, unies après des manifestations comme celle-là.
Alors on ne sait pas trop ce qui se cache derrière le mot terroir, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ce mot ?
Le terroir, c'est une notion qui est complètement incroyablement étendue et presque imaginable. Le terroir, c'est le rassemblement de la terre, de la météorologie, des habitudes ancestrales qui sont dans les pays, de l'exposition d'un sol, de la nature du sous-sol, etc. Des habitudes du vigneron, tout ça, on peut considérer que ça fait partie du terroir. Il n'y en a pas deux qui sont égaux. À 3 km ou 4 km, ça peut être des terroirs différents sur une même appellation, sur le même genre de vin. Le terroir, c'est une notion qui est très, très floue, mais à la fois immensément riche et intéressante.
Donc, il y a le relief, la géologie, toutes ces caractéristiques qui font partie. Donc, c'est compliqué de s'y retrouver là-dedans.
Oui, c'est ça.
Et c'est pour compliqué ça. Et en même temps, c'est assez complexe et ça montre qu'il y a une diversité incroyable de vins, de vignes, de vignerons.
Le vin, c'est une activité qui a rapport avec l'agriculture, donc le travail à la terre, mais aussi avec la science, avec l'art même, on peut dire, dans certains cas. Donc c'est tellement étendu que c'est difficile à la définir complètement. Mmh. On peut la définir, bien sûr, en juxtaposant les mots, mais on l'a justifié, on l'a appelé terroir justement pour englober tout ce qui peut être, compris dans le terroir, bien sûr.
Oui, parce que le vigneron peut choisir la direction dans laquelle va aller ses vignes et son vin en fonction des traditions locales.
Et en fonction de la météo. Qu'il y a des... vous retrouvez dans des régions, il y a certains cépages qui sont adaptés à ces régions-là. Le cépage étant la race des raisins qu'on utilise pour faire le vigne. Ils vont pas être valables dans d'autres régions ou alors sous d'autres conditions. Et tout ça, c'est le vigneron s'adapte au milieu dans lequel il souhaite travailler. Et puis ses qualités, sa création, son travail, etc., font que il fait tout le restant et il établit son vin un peu comme il le souhaite, mais toujours en fonction de la nature. La viticulture, c'est le respect de la nature, tout en étant à la merci de la nature. Bien sûr, c'est pas toujours simple. Les éléments de la nature, les tempêtes, les grêlons, etc. Moi, je compare un peu la viticulture un petit peu à l'ostréiculture. Mm-hmm. C'est-à-dire travailler dans un milieu relativement hostile, pas toujours, mais souvent, en essayant d'en tirer le maximum par son savoir-faire des éléments qu'on a à sa main.
Voilà. Oui, donc c'est quand même un métier qui comprend beaucoup de risques. C'est la loterie pour vous.
Complètement. Il y a certaines régions, pour noter par exemple des régions sur Vouvray, le Pays de Loire, moi je connais des viticulteurs qui ont perdu toute leur récolte 3 semaines avant la vendange. Vous imaginez, ça fait un an que vous travaillez, vous regardez votre vigne, vous la travaillez, vous la faites pousser, etc. Et au moment de faire la vendange, de profiter de son travail et de commencer à travailler activement, tout s'écroule parce qu'il y a une énorme tempête de grêle c'est la face aussi cachée de la viticulture. Quand vous achetez une bouteille de vin, vous êtes loin de penser à tout ça. Par exemple, cette année, on est dans une année où il y a très peu de vin de Bourgogne blanc parce qu'il y a eu d'énormes manques à gagner sur la récolte l'année dernière, donc évidemment cette année tout ça c'était il y a moins de récoltes, il y a moins de vin à disposition cette année. Mais ça tout le monde le sait pas, les gens quand ils achètent une bouteille de vin ils sont pas forcément de savoir tout ce qu'il y a derrière, parce que le vin c'est le plaisir, mais pour le viticulteur c'est pas toujours le plaisir, il y a la passion, mais ça cache pas mal aussi d'abnégation et de parce que nous cavistes en fait on est simplement la courroie de transmission, on est le lien entre le viticulteur et son produit et puis le consommateur qui va venir l'acheter. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se passer d'expliquer le produit aux clients et aux gens qui viennent nous voir dans la boutique, parce que sinon ça serait manquer de respect à celui qui viticulteur qui l'a fait en amont et qui a mis tout son cœur à produire quelque chose.
Donc prendre le temps effectivement quand on ouvre la boutique de s'intéresser et par exemple là on a un temps, il fait assez froid, on a un temps hivernal qui est arrivé d'un coup, est-ce que c'est mauvais pour la vigne en général?
Non, pas du tout, au contraire, enfin en ce moment la vigne elle dort. elle est dans son cycle de repos. Le cycle végétatif, il va reprendre au début du printemps. Pour l'instant, elle est en repos. La vendange a été faite. En ce moment, c'est la période de la taille. C'est-à-dire que les vignerons vont tous les jours dans la vigne, couper les branches, la faire pleurer, ce qu'on appelle faire les pleurs, c'est-à-dire couper les rameaux qui sont secs et qui ont donné, parce qu'il faut savoir que la vigne, c'est une liane.
C'est une liane.
Oui, c'est d'origine une liane. Toutes les vignes européennes sont originaires de la Géorgie et issues d'un cépage qu'on appelle le Vitis vinifera, qui, à force d'expansion et puis de tous ses petits collègues, a fait toutes les vignes qui se trouvent en Europe.
Ah oui.
Voilà. Donc, ils sont issus d'un seul...
D'un seul tenant, d'une
seule vigne spécifique. Donc, cette liane, arrivée à la fin de son cycle, après une fois que la vendange est faite, on la laisse reposer. On travaille beaucoup sur le sol aussi.
Alors, c'est-à-dire, on travaille sur le sol.
On fait du labour. Quand on est un viticulteur bio ou biodynamie, on entretient le sol. Sinon, on fait de la taille en ce moment. On taille la vigne pour qu'elle puisse se reproduire et repousser correctement, disons, l'année prochaine.
Au printemps.
Voilà.
Qu'elle soit en pleine forme au printemps, c'est
voilà.
ça ouais. Bon, c'est déjà... Effectivement, on comprend que c'est très complexe, tout ça.
C'est sûr.
C'est très complexe. Et du coup, c'est vrai que pour nous, clients, c'est encore plus complexe de s'y retrouver. En fait, parce qu'on connaît facilement les grands vins.
Oui.
Et puis pour arriver à dénicher des vins de terroir, des petits vins comme ça qui sont méconnus, il faut vraiment passer du temps. Il faut être curieux. Mmh. Il faut aller chercher. Comment on fait pour il faut tomber sur des gens comme vous.
Voilà, c'est tout à fait ça.
C'est ça.
On va voir son caviste. On lui demande, on lui propose ce dont on a envie, quelle sorte de vin nous plaît ou quelle sorte de vin dont on a envie, et après on lui fait confiance. Voilà. Moi, je sais quand je reçois des clients et que je leur demande de quoi vous avez envie, voilà, j'essaye d'être ouvert au maximum à me fier à leur désir intime, parce que dans le paysage viticole français, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de catégories, donc on peut vraiment faire plaisir à tous les genres, je pense. Un truc important aussi dans le cavisme, et ça, c'est pour ça que les gens qui n'ont jamais trop fréquenté les cavistes, il ne faut pas qu'ils aient peur, c'est que le caviste, il doit respecter aussi ce que le client demande, et à tous les niveaux, notamment financiers.
Financiers,
voilà,
oui.
Moi, une des phrases que j'applique souvent, c'est qu'est-ce que vous concevez comme budget pour acheter votre bouteille. Il y a des gens qui veulent se faire plaisir avec une petite bouteille à entre 5 et 10 euros, il y en a d'autres qui ont moins ces problèmes-là. Donc, on peut trouver... Bonheur
dans
pour tout le monde.
Dans chaque budget, on peut se faire plaisir. Voilà.
L'important, c'est de faire confiance aux cavistes.
Oui, donc...
Parce qu'il y en a pour tout le monde.
Il y en a pour tout le monde. Très bien.
Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via. Neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, chibum, chibum. Do 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 do, chibum, chibum, boom. Do 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 do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, chip, chip, boom. Do 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 do, chip, chip, boom. Do 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 do. Vieni via con me. entra in questo amore buio, pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, boom. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, boom. Do-do-do-do-do.
C'était Paolo Conte, It's Wonderful sur Allegre FM 93.1. Nous sommes avec Jean-Paul Masselin. Nous parlons de vin aujourd'hui et puis plus tard de champagne. Alors, il y a beaucoup différentes façons de travailler le vin, Jean-Paul Masselin. Mais j'aimerais bien qu'on fasse un peu que vous nous éclairiez sur les différences entre les vins, ce qu'on appelle raisonnés, bio, biodynamique, nature, parce que finalement, c'est beaucoup de mots comme ça. Et puis, je pense que les consommateurs ou les auditeurs sûrement confondent un peu tout ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner des clés ou des explications sur ces différences?
Oui, bien sûr. Donc, tout ça, tous les noms que vous avez dit, ce sont des labels. Des labels, ce sont créés par des grosses entreprises qui incite les viticulteurs, ou les viticulteurs adhèrent à ce label de façon à exécuter les vins qu'ils souhaitent. Alors premièrement, il y a les vins traditionnels sur lesquels il n'y a rien inscrit. Donc là, on est dans une viticulture traditionnelle, comme elle existe depuis près de 100 ou 150 ans en France. Le vigneron fait son vin, il y met les produits qu'il veut dedans. Alors il y a les pesticides, il y a les engrais chimiques, il y a ceci, il y a cela. Il y a d'autres produits plus naturels. Et puis il fait son vin tant bien que mal. Il est très très bon ou il n'est pas très très bon. Il y a des très très grands crus qui sont excellents, qui sont fabriqués suivant cette méthode-là, hein, la méthode traditionnelle. Après, si on réfléchit un petit peu et si on se dit, on voudrait essayer de faire un vin qui est un petit peu plus propre, ou alors une agriculture un petit peu raisonnée, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire d'avoir une conception un petit peu plus écologique de son travail et puis une conception un petit peu plus qualitative vis-à-vis du client, en essayant de supprimer au maximum les produits chimiques, au maximum de ce qu'on peut, hein, bien sûr, ça c'est toujours dépendant de sa volonté primaire. Donc là, on va s'inscrire à des labels, donc haute valeur environnementale, etc., etc. Il y en a beaucoup plus, qui eux sont des labels, disons, génériques, qui imposent aux vignerons de respecter des process de travail qui sont plus intégraux. C'est-à-dire, on fait attention à la ressource en eau, on fait attention à la gestion du domaine, on fait attention à plein d'éléments, autour de la vinification et de la viticulture. Et puis, il y a les labels qu'on connaît bien, notamment le label bio en premier. Donc, lui, il impose aux vignerons, si on veut adhérer à ce label, le label bio, il est géré par l'Europe maintenant. Et si on veut adhérer à ce label, il faut expurger tous les produits chimiques de la partie de la viticulture du vin, c'est-à-dire la culture du vin, c'est-à-dire ça considère les produits chimiques, ça considère les engrais, ça considère tous ces produits-là qu'on doit supprimer. Après, pour la vinification, c'est-à-dire une fois que la vendange est faite et qu'on commence à fabriquer le vin, après, là, on est plus ou moins tranquille, on n'a pas trop d'impositions à respecter. Ça, c'est pour le label bio. Oui. Sauf dans l'adjonction du soufre, du fameux soufre, du produit sulfuré, qui sont par ailleurs quand même des produits assez importants dans la mesure où on les utilise, toujours avec parcimonie et puis bien sûr avec respect de ce qu'on fait. Où là, les labels pour le bio, on doit quand même diminuer un petit peu la quantité de soufre qu'on met d'habitude ou sans label. Quoi.
Et c'est quoi la quantité
Alors, le label bio, il impose d'avoir entre 90 mg par litre maximum de soufre dans les cuvées. 90 pour les blancs et 70 pour les... Pour les rouges.
D'accord.
On met toujours beaucoup plus de soufre dans les vins blancs.
Parce que
les vins blancs, ils sont moins chargés en matière qui vont défendre le vin. C'est-à-dire que quand on fait un vin rouge, il est pressé, mais il est aussi macéré. On le fait macérer avec la peau de façon à ce qu'il soit plus charpenté, plus puissant. Mmh. Alors que le vin blanc, pour la plupart du temps, et sauf exception, mais ça, il y a toujours des exceptions partout, le vin blanc, on le presse et on le filtre tout de suite. Donc dans le vin blanc, il y a en général beaucoup moins de matière protectrice du vin. Et on sait toujours que c'est les anthocyanes qui sont petites matières sur la peau du raisin qui renforcent le vin et qui l'empêchent de se dégrader rapidement.
Ah oui.
Voilà.
Donc là, on charge, si je veux dire, un peu plus en soufre.
Voilà, c'est ça. Oui. Souvent, les vins blancs sont un peu plus soufrés que les vins rouges.
Alors ensuite,
Il y a le label biodynamie.
Le biodynamie.
Le label biodynamie, alors ça, c'est directement hérité d'un ingénieur autrichien qui s'appelle Rudolf Steiner, qui a mis en place ces concepts-là au début du XXe siècle, je crois, en 1924, où il a repris les principes de permaculture, où il a insisté un concept de viticulture qui était intégral, c'est-à-dire que la vigne et la nature ne faisaient qu'un. Et qu'il fallait s'intégrer là-dedans. Donc, il a émis des principes. Et en ce qui concerne la viticulture, en premier lieu, c'est aucun produit chimique, que ce soit dans la vinification ou dans la viticulture. Donc ça, c'est clair. On a le droit qu'il y a vraiment 2-3 bricoles, ou des blancs d'œufs pour coller le vin, enfin des choses comme ça, qu'on a le droit. Alors, il y a beaucoup de gens qui se sont dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces histoires ?» Parce que ces principes-là étaient connotés un petit peu ésotériques, un petit peu magiques. Mmh. Quand on a commencé à dire « Oh là là, il faut aller à la lune montante, à la lune descendante, faire ci, faire ça, couper les feuilles », on s'est dit « Voilà, voilà de la magie. Oh là là, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on a peur ?» Alors qu'en fait, c'est des principes de bon sens, de jardinier qui existent depuis la nuit des temps. Moi, quand j'étais tout gosse, mon grand-père à la campagne me disait « Ah ben non, il y a les jours feuilles, les jours fleurs, il faut aller couper. » Et mon grand-père, il n'avait rien d'ésotérique et il n'avait rien de biodynamie.
Oui, on revient juste à la...
On revient simplement à
la connaissance de la primaire, nature et de ce qui nous entoure.
Tout à fait, la permaculture. Maintenant, il y a des écoles spécialisées en France où on apprend la permaculture. On a l'impression que c'est tout nouveau. Mais il faut remonter à des centaines d'années. C'est justement tout ce qu'on avait perdu depuis 100 ans d'utilisation de produits chimiques, d'engrais, etc. Il faut savoir qu'il y a certains coins de France où la terre, en particulier les vignes, la terre, elle est sous perfusion permanente. C'est engrais chimiques pour renouveler, pesticides pour empêcher de faire pousser l'herbe, etc., etc. C'est un traitement, disons, sur l'année, quoi.
Mais alors, comment est-ce qu'on passe d'une viticulture traditionnelle, justement, à ensuite une viticulture biodynamique par rapport aux terres?
Alors, ça, il faut avoir vraiment envie, parce que ça, c'est pas simple. C'est pas simple. Arrêter les produits chimiques qu'on met sur sa vigne d'un seul coup, du jour au lendemain, ça nécessite déjà une bonne réflexion personnelle, parce qu'il faut savoir que le travail en bio et en biodynamie, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que le travail en viticulture traditionnelle, parce qu'il y a plus de manutention. Mmh. Il faut aller compenser dans les vignes ce que la chimie ne fait plus d'elle-même. Oui. Donc, ça demande du désherbage, ça demande de la labour, ça demande...
Donc, de la main-d'œuvre.
De la main-d'œuvre, ça demande de laisser travailler un petit peu la vigne, ça demande, par exemple, qu'on laisse enherber entre les rangs, c'est-à-dire qu'il faut retrouver du biotope à la terre, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'herbe, c'est les petits oiseaux, c'est les insectes qui redonnent de la vitalité à la terre qu'elle avait perdue par des traitements chimiques trop intensifs.
Donc, c'est laisser du temps, et de l'argent.
On a estimé il y a quelques années de ça, que pour passer d'une bonne qualité d'une qualité traditionnelle comme on la connaît, à une bonne qualité en bio, du niveau de production de la terre, il faut au moins 3 ou 4 ans. Donc, dans le temps, il y avait... le viticulteur passait de l'un à l'autre, comme ça, puis il continuait à vendre ses vins. Maintenant, on a créé une possibilité au viticulteur d'indiquer sur sa bouteille qu'il est en transition bio. C'est-à-dire que le viticulteur indique au client de dire, écoutez, voilà, moi, j'ai franchi le pas, je vais faire du bio, c'est-à-dire que j'ai arrêté tous les produits chimiques. Ça va durer pendant 3 ou 4 ans où je vais être en transition. En transition, ça veut dire que, grosso modo, il faut m'excuser si le vin est un petit peu moins ceci ou un peu moins cela, mais Il est plus propre, quoi qu'il arrive.
Oui.
Et il reviendra un très joli vin et un très bon vin d'ici quelques années. Quand la terre se sera régénérée complètement, qu'elle aura reformé son biotope intégralement, où là, mon vin va retrouver des qualités qu'il avait avant, mais additionné avec du produit chimique.
Oui, oui.
Là, il va retrouver des belles qualités, mais sans produit chimique.
Oui. Et alors, est-ce que ça change beaucoup? Parce qu'on est quand même habitué au goût boisé du vin. Est-ce que ça change beaucoup, justement, de passer à un vin biodynamique?
Alors, il y a des dégustateurs qui ont réussi à isoler les arômes du glyphosate. Alors, les engrais chimiques, pas tout, on n'arrive pas à les percevoir encore, mais quand ils analysent un vin qui est fait d'une façon traditionnelle, c'est-à-dire engrais, glyphosate, etc., etc., ils ont réussi à, disons, isoler l'arôme pur. Alors, c'est des professionnels du nez, c'est des grands petits parfumeries, les grands nez qu'on peut connaître. C'est un arôme un peu ferreux, un peu aluminium, etc., etc. Et ça, on a réussi à isoler que c'était les arômes restants du glyphosate qui sont dans les vignes.
Oui.
Alors, une fois qu'on n'a pas tout ça, évidemment, on a des vins qui sont plus aromatiques, plus puissants, qui respectent mieux leur terroir, c'est-à-dire qu'on peut quasiment au nez dire, ah ben voilà, ça c'est un vin de tel ou de tel terroir. Et par contre, le côté boisé, ça c'est pas forcément très évident parce que une fois que les vins sont boisés, ils ont ce petit côté un petit peu vanillé, un peu réglissé, surtout sur les vins rouges ou même sur certains vins blancs, qui font qu'il n'y a pas forcément beaucoup de différence de ce point de vue-là par rapport aux vins traditionnels.
Ouais, d'accord. Donc ça peut devenir ensuite des vins de garde, c'est-à-dire des vins
qu'on
va laisser vieillir. Il y a pas de problème.
Vous vous rendez compte que moi, je ne le savais même pas en tant que caviste. Je ne savais pas que la Romanée Conti, ils sont en biodynamie depuis 2007. Un vin comme la Romanée Conti, qui est un des musts en France, et dont on a des vins de garde jusqu'à 30, 40, 50 ans. Et je ne savais même pas qu'ils étaient en biodynamie
qu'ils étaient
depuis
en biodynamie.
2007.
Ah oui, effectivement, on ne sait pas
tout ça. Tout ça pour vous dire que voilà, quoi.
Oui.
Discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato, le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo biffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è?
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? Senza avere mai le cose che pretendi e scusa, in fondo scusa, tu che dai?
Mi è venuta una pensata, nella tana l'ho portata, versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, m'ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, m'ha guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è?
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? Attento lei lunga la sala, lei ti farà girare in tondo senza avere mai le cose che pretendi.
scusa in cambio tu che dai?
Che idea?
Ma quale idea?
Balla. Balla.
Quale idea?
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Balla.
Nous sommes sur Aligre FM 93.1 et nous continuons à parler de vin. Alors on peut un peu peut-être regretter que les grands vignerons ne communiquent pas sur le fait qu'ils soient en biodynamie comme...
Alors oui, moi je le regrette personnellement parce que ça donnerait plus de valeur à la... à l'implantation du nouveau travail vis-à-vis de la lutte contre les pesticides, etc., etc. Même moi, caviste, il faut aller chercher vraiment, aller très loin pour trouver les grands crus qui sont passés en bio, biodynamie. Mmh. Moi, j'en connais quelques-uns, mais je suis sûr qu'il y en a encore plein qui ne communiquent pas. Et moi, je serais pour un retour à un étiquetage général, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on adhère à un label et que, évidemment, le travail qui est à côté est fait, même si on s'appelle Pontécanet ou Romanée Conti, on devrait indiquer au public qu'on est dans une culture en biodynamie et dans un processus de vin en biodynamie, parce que finalement, bah, ça inciterait d'autres viticulteurs à le faire et à y passer aussi, puisque ça, il y a quand même pas mal de freins, hein, pour, notamment financiers dans les grands crus. Et puis, ça donnerait confiance aux consommateurs en disant, voilà, si ces grands crus-là, sont passés en biodynamie et réussissent à faire un vin aussi bon qu'il l'a été, comme c'est obligatoire d'ailleurs, parce que quand on est comme ça, on n'a pas le choix de faire un vin qui soit mauvais. Hein. Oui. Là, il n'est pas question de transition, c'est question d'impérativement tous les ans faire un excellent vin.
Oui.
Et ça donnerait une confiance plus renforcée dans le consommateur en disant voilà une méthode de fabrication qui doit être intelligente et bonne, puisque ces grands crus le font et que ça donne de très bons résultats.
Alors.
Après, ça, c'est eux qui décident. Hein, voilà. Moi, je sais que j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il y a au moins 30% des viticulteurs bordelais, bourguignons, pardon, pas bordelais, bourguignons, qui sont passés en bio ou en biodynamie, mais qui ne communiquent pas dessus. Parce qu'ils estiment que c'est naturel de ne pas communiquer, parce que c'est... voilà, quoi, ils sont un peu dans la tradition, et dans la tradition, on ne veut pas admettre qu'à une époque, et on faisait autre chose, quoi.
Oui, voilà. C'est comme ça.
Voilà, c'est comme ça.
Bon, alors aujourd'hui, Margot est venue avec nous rejoindre à la radio, qui a une jeune de 27 ans, qui, je rappelle l'idée des grands s'amusent, hein, on est dans la transmission intergénérationnelle. Donc voilà, donc Margot avait été très curieuse de poser ses questions à Jean-Paul Masselin. Margot, je te laisse la parole.
Oui, bonsoir Anne, bonsoir Jean-Paul.
Bonsoir.
C'est vrai qu'avec tout cet éventail de catégories de vins que vous venez d'évoquer, je me posais la question de comment, derrière, vous les sélectionnez pour les offrir après à vos clients.
Alors, on a plusieurs filières. D'abord, on travaille beaucoup en direct avec certains vignerons qui nous envoient des vins, des échantillons, quand ils ont des nouvelles cuvées. Nous, on ne peut même pas se permettre de vendre une bouteille de vin si on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans et comment il est. Ça peut même varier d'une année à l'autre, donc on tient à jour. Donc, ils nous envoient des échantillons ou même ils passent nous les donner. On les goûte, on les finit. Soit ils nous plaisent et on les vend, on les achète et on les vend. Soit ils ne nous plaisent pas, puis on dit, bah, on prendra autre chose. Donc ça, c'est le cas quand il y a des vignerons en direct. On a aussi une autre source d'approvisionnement qui sont des groupements de vignerons. Alors là, c'est beaucoup plus pratique commercialement pour le vigneron, puisqu'il adhère à une structure auquel il confie ses bouteilles, et la structure s'occupe de la commercialisation. Donc il y a un seul intermédiaire. Voilà. Mais par contre, c'est un intermédiaire qui garantit de respecter le joli travail du vigneron, etc., etc. Et puis voilà. Donc, avec ces structures-là, en général, bah, c'est le même travail, mais c'est la structure qui nous envoie des échantillons où on demande à l'examen en cherchant dans les offres commerciales de cette structure en disant, bah voilà, on aurait besoin d'un tel vin ou de tel vin, qu'est-ce que vous avez? Il nous envoie un catalogue, tout bêtement, mais on sait dans ces structures-là qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire et qui n'est très peu intéressé par la chose, voilà, simplement de transmettre et d'aider le vigneron à commercialiser tous ses produits. Mmh. Voilà. Okay. Donc ça, bah, on fait comme ça. Qu'est-ce qu'on a comme d'autres sources d'approvisionnement? On travaille aussi avec quelques petits négociants, mais qui sont des petits négociants courtiers, c'est-à-dire qu'ils achètent eux-mêmes les vins ailleurs, partout en France, et ils nous les reproposent. Ça, c'est, mais jamais des gros négociants qui ne savent pas ce qu'ils vendent. Hein. Toujours, on fait l'effort de s'adresser à des gens qui savent parfaitement ce qu'ils ont dans leur catalogue, de façon à ce que nous, on le sache parfaitement aussi, de façon à le transmettre aux clients.
D'accord.
Voilà, ça, c'est les différentes sources d'approvisionnement. Et puis, ben, après, il faut avoir une gamme. Quand on est caviste, il faut avoir une gamme à peu près cohérente. Hein. C'est-à-dire que essayer de répondre aux demandes. On peut suggérer aux clients, bah, aujourd'hui, on n'a pas de ça, ou voilà, mais si vous voulez, on a autre chose. Mais il faut essayer aussi de respecter le client qui a envie de ça, qui a envie de ça. Notamment là, on est à l'approche des fêtes. Si quelqu'un vient me dire, je veux du Sancerre ou je ne sais trop quelle appellation, on est quasiment obligé d'en avoir un peu et des bons. Voilà. Parce que sinon, on dira, bah, j'ai pas de ça, bah, j'ai pas de ça. On ne peut pas faire uniquement ce qui nous plaît. On choisit dans une gamme, il y a un programme, enfin, il y a tout un panel viticole en France qui nous oblige quand même un petit peu à respecter certains désirs. Voilà. Si on se met à ne plus avoir de ci ou plus avoir de ça, on s'expose à ce que les gens ils se disent, ah bah, peut-être vous pouvez me suggérer autre chose, mais moi, si j'ai envie de ça, parce qu'il faut quand même qu'on respecte le désir du consommateur et du client, voilà, ça ne nous empêche pas quand même d'essayer de vendre particulièrement ce qu'on a envie, ce qu'on aime, de façon à le faire découvrir.
Oui, bien sûr.
Mais il y a aussi la notion de respect de ce que le client a envie, quoi.
Très bien. Okay. Est-ce que voilà. Ça a répondu à ta question?
Oui, très bien. Oui.
Tu avais une deuxième question.
Oui, je me demandais aussi pourquoi est-ce que ça a été un choix? Pourquoi Versailles?
Alors, Versailles, c'est pas un choix. Enfin, c'est un choix. C'est à Versailles, ils m'ont fait confiance. Moi, comme j'ai été restaurateur, donc dans la restauration pendant une quarantaine d'années, suite à un accident professionnel, donc j'ai souhaité me réorienter. Mmh. Voilà, amoureux comme j'étais et passionné du vin, j'ai dit voilà, pour les quelques années qui me restent à travailler, je suis obligé de travailler dans le vin. J'en ai tellement envie depuis longtemps que voilà, c'est un prétexte pour abandonner un peu la restauration et la cuisine. Et puis, après ma formation, comme l'a expliqué Anne tout à l'heure, j'ai dit, maintenant, il faut que je travaille. Donc, j'avais créé une micro-entreprise de dégustation de façon à me lancer un peu tout seul. Puis, je me suis aperçu que c'était pas si simple que ça en avait l'air au départ. Et je me suis dit, après tout, pourquoi pas trouver une place de salarié dans une cave de façon à pouvoir mettre un pied déjà dans le milieu, même si après, je développe ma micro-entreprise. Et puis, les gens qui m'ont fait confiance, et ça, je les remercie encore, c'est les patrons de la cave, des caves du château, qui ont vu arriver en profil un monsieur de 57 ans, qui est issu de la restauration, qui n'avait aucune expérience professionnelle en tant que caviste, qui avait de très, très belles connaissances, de très, très belles... très, très belles, très belles, ou belles, je ne sais pas, suivant le cas. Mais enfin, et ils m'ont dit, les bancos, voilà. 57 ans, ce n'est pas forcément le profil idéal qu'on recherche quand on... Là, en général, c'est jeune caviste, dynamique. Moi, je suis vieux caviste, dynamique.
Voilà. Et passionné, et puis surtout...
Voilà, et passionné, êtes... voilà.
Et le goût de transmettre.
Voilà, mais j'ai levé
fort.
Assez vite leurs doutes, parce que j'avais une telle envie de communiquer, une telle envie de transmettre, qu'ils se sont trouvés rassurés très, très vite, quoi, voilà.
Ça se ressent, en tout cas.
Voilà, c'est ça, ouais.
Fortement.
Je pense. Ouais, j'espère. Moi, je fais ça pour ça, puis de toute façon, je ne pourrais pas le faire autrement, quoi qu'il arrive. On fait avec ce qu'on est. C'est clair.
Est-ce que tu as une autre question, Margot?
Non, pour moi, c'était tout. Mais en tout cas, je trouve que le parcours est très riche.
Ouais.
Ça donne envie.
Merci, Margot. Merci.
Alors moi, j'avais envie qu'on parle un petit peu des vins auvergnats, parce que vous avez donc ouvert un restaurant quelques années à Blesle, en Haute-Loire. Et vous m'aviez dit que vous étiez étonné des vins auvergnats qui sont peu connus.
Très, très jolis.
Et qui, finalement, sont pas si mal que ça. Même plutôt bien.
Même plutôt très bien.
Quand je dis pas si mal, c'est un peu négatif. Donc voilà. On va être positif, au contraire.
Oui, quand j'ai ouvert mon restaurant, j'ai racheté une maison un peu à l'écart des voies de circulation, au bord de la Nationale 9, mais que l'autoroute avait court-circuité depuis de nombreuses années, un peu en désuétude, parce que je n'avais pas un budget gigantesque. Et je me suis installé dans ce restaurant. Et puis, comme je vous l'ai dit, ma passion étant que j'ai fait une cuisine de terroir pour respecter le terroir auvergnat. Il faut dire que j'étais aidé par le fait que 20 ans avant, j'avais travaillé dans un restaurant auvergnat. Donc, ceci est dans les
idées-là. Oui.
Je me suis arrivé à faire une cuisine auvergnate que les Auvergnats ne connaissaient pas non plus. Les choses un peu spécifiques que j'avais appris 20 ans avant. Et puis, en ce qui concerne le vin, j'ai commencé à chercher à droite, à gauche. J'ai trouvé des cuvées extraordinaires de Chanturc, de Châteauguay, de Boudes, un petit village formidable à côté d'Issoire qui produit des vins extraordinaires. Donc, j'ai pris le temps d'aller les voir. J'ai pris le temps de me renseigner. Même dans le sud, presque dans l'Aveyron, et j'ai mis tout ça à ma carte, la carte de mon restaurant, et je me suis rendu compte à ce moment-là que les Auvergnats ne connaissaient même pas leur vin.
Leur vin.
Voilà. Alors ils rentraient, ils disaient « Donnez-moi une Côte du Rhône ». Mais attendez, une Côte du Rhône, goûtez ça, goûtez du Coran rosé, goûtez du Châteauguay, blanc ou rouge, goûtez du Chanturgue, goûtez du Boud. Et les gens à qui j'achetais du vin me disaient, mais à la fois, vous êtes plus intéressés par les vins auvergnats que les Auvergnats eux-mêmes. Petit côté un peu méconnaissable, mais on trouve des cuvées extraordinaires.
Ah oui.
J'avais appris à l'époque que le Chanturgue, qui est un cru exceptionnel qui se trouve dans le Puy-de-Dôme, se disputait l'origine du coq au vin. On dit que l'origine du coq au vin, c'est Chambertin. Et les Auvergnats se disaient, nous, c'était le coq au Chanturgue. Donc, j'ai été chercher dans des bouquins historiques. Et en effet, le coq au Chanturgue, c'est une recette ancestrale auvergnate, peut-être même qui date d'avant le fameux coq au Chambertin qui plaisait tant à Napoléon.
Je vais y venir tout à l'heure. On va y venir à Napoléon. Donc, vous avez découvert comme ça toute une...
Et je les ai mis à ma carte. Et puis, les gens s'y sont habitué petit à petit, et puis en profitait, et puis surtout avec des rapports qualité-prix qui étaient exceptionnels.
Et vous en vendez à Versailles?
Non, si, j'en vends deux. J'ai deux références de vins auvergnats qui sont élaborés par la maison d'Espra Saint-Verny, qui sont fabriqués sur les coteaux de Montrond.
Il y a quatre départements.
Au sud de Clermont-Ferrand.
Oui.
Donc sur un vin original qui est fait à base de Syrah, donc assez rare en Auvergne. En général, en Auvergne, on fait du Pinot Noir ou on fait du Gamay, on fait des choses comme ça. Là, c'est un cépage Syrah, donc c'est assez exceptionnel. Sur les coteaux de Vermonton, j'ai retrouvé le...
De Vermont.
Au sud de Clermont-Ferrand.
Oui.
Et puis, j'ai un autre petit Pinot Noir aussi, toujours de cet acabit-là, qui sont deux vins auvergnats. J'ai pas des vins d'appellation, entre guillemets, Chanturgue, Châteauguay, comme j'ai dit tout à l'heure, mais j'ai deux petits vins auvergnats qui sont assez sympas et assez originales, chacun dans leur catégorie.
Donc, en creux, comme ça, en étant effectivement curieux, on peut aller découvrir des...
On peut s'ouvrir, exactement. On peut s'ouvrir au terroir. Moi, j'ai pas un terroir de naissance. Moi, je suis né place Clichy, à Paris. Donc, ce que j'ai, c'est la chance d'avoir l'enthousiasme...
À part quelques vignes sur la butte Montmartre, il n'y a pas grand-chose.
Et encore, j'ai l'enthousiasme de découvrir tous les terroirs de France. Quand je suis arrivé en Auvergne, j'étais épaté de ce que j'ai vu. Il suffit que j'aille un week-end à Sancerre, je suis épaté de ce que je vois. Je suis en recherche permanente. Alors, je suis peut-être un bon client, peut-être que je suis un peu naïf ou quoi que ce soit, mais j'adore la notion du terroir et j'ai tellement envie de tous les connaître que vraiment, j'ai pas de préférence.
Et oui,
j'ai une curiosité naturelle de tout, puisque
cette grande diversité qu'on a de la chance d'avoir en France, parce qu'avec des climats très différents. différents, avec des reliefs différents.
Exactement, ouais. Exactement. Qui est issu aussi peut-être de ma partie, la partie cuisine de mon terroir, hein, enfin de mon parcours.
Oui.
Quand on fait de la cuisine, on est obligatoirement imprégné des terroirs français.
Hein, curieux,
on est dans une curiosité permanente.
Oui.
Ses blanches brebis. Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit c'est de rouler dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. À la foire du village, un jour je lui ai soupiré que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier. Et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre dedans. Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai.
Joe Dassin, siffler sur la colline. Alors, je ne sais pas sur quelle colline, peut-être sur les collines auvergnates, hein, on ne sait pas.
Ouais, ou les collines du Sancerrois. Je suis allé visiter il y a une quinzaine de jours.
Voilà, hein. Donc on est toujours sur Aligre FM. Et puis, donc, vous me disiez que vous étiez allé effectivement visiter les collines sancerroises qui sont magnifiques.
Ouais.
Alors, on va parler un peu de champagne, parce que c'est dans deux jours, c'est Noël.
Oui. Eh bien oui, hein, eh oui, on arrive.
Et champagne, c'est quoi? C'est symbole de fête et d'événements heureux.
Ouais.
C'est un compagnon de la joie. Donc, Napoléon appréciait le chambertin. Qu'est-ce que c'est le chambertin?
Chambertin, c'est un vin de Bourgogne. C'est un cru de Bourgogne, à côté de Gevrey. Maintenant, l'appellation, c'est Gevrey-Chambertin. Mais à l'époque, c'était Chambertin. C'est un vin à base de pinot noir, qui était déjà à l'époque de Napoléon un très, très grand cru. Le vin à l'époque n'était pas le même que maintenant. Hein. Il est bien évident qu'il y avait moins de soins sur les vignes, c'était un petit peu plus acide. On n'avait pas fait des progrès gigantesques qu'on fait dans l'éducation des levures, etc. Donc les vins tournaient aux alentours de 11 degrés, 12 degrés, et encore, c'était vraiment le maximum qu'on pouvait trouver. Donc il y avait un petit côté un petit peu acide, revigorant. Mais Napoléon aimait le Chambertin.
Mais il aimait surtout le champagne.
Ah bah oui.
Voilà. Donc, il a noué une amitié à l'époque avec Jean-Rémy Mouette, maire d'Épernon, et de la maison Mouette. Et c'est ainsi que le Brut de Mouette a pris le nom de Brut impérial en 1869. Donc ça, vous le saviez tout ça, hein?
Non, je
ne
le savais pas.
Vous ne le saviez pas.
Non.
Alors, des vignobles le plus au nord de la France, les Champenois ont réussi à produire un vin rouge moyen. Un vin blanc effervescent, l'un des symboles de l'art de vivre à la française.
Ça l'est devenu.
Ça l'est devenu, parce que c'était un vin rouge, en fait, le champenois. C'était du vin rouge.
Au départ, c'était du vin rouge, voilà. Et puis, Dom Pérignon a réussi à presser ce vin sans forcément qu'il soit coloré. C'est-à-dire, il faut savoir que dans le champagne, il y a 3 cépages qui sont admis. Il y a 2 cépages qui sont à peau noire et à chair blanche, et 1 cépage à peau blanche, le chardonnay. Les 2 autres sont étant du pinot noir et du pinot meunier. Donc, ils ont des peaux noires. Or, si évidemment, on presse le vin et qu'on le met, on ne fait pas attention, le vin va être coloré avec ses peaux, puisque c'est la peau du raisin qui donne la couleur au vin. Donc, on sait bien garder, on presse le vin le plus rapidement possible de façon à ce qu'il ne soit pas du tout coloré, de façon à ce que ce soit un vin transparent. Voilà. Donc, en fait, en Champagne, le pinot noir, ce qui est un cépage formidable, hein, on le retrouve en Bourgogne, tous les grands vins de Bourgogne sont du pinot noir. On le retrouve en Alsace, où on fait des créments avec, des créments pas rouges, hein, des créments blancs. On le retrouve en Bourgogne, on le retrouve dans beaucoup de régions de France, le pinot noir. Mm-hmm. C'est un cépage qui fait des excellents vins rouges, mais si on les presse et qu'on ne laisse pas macérer, qu'on ne laisse pas le vin attraper la couleur de la peau du raisin, ils font aussi d'excellents vins blancs. À preuve, c'est que c'est le champagne.
C'est le champagne, d'accord. Voilà. Donc, et pourquoi les bulles ?
Alors, les bulles, c'est le secret de Dom Pérignon. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, le champagne, c'est une fabrication en 2 parties. En une première partie, il y a la confection d'un vin blanc, sec, pas trop mature, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas trop mûrir sur les vignes, qu'on filtre tout de suite pour qu'il reste bien clair et bien transparent. D'ailleurs, on les appelle les vins clairs. Une fois que ce vin clair est fait, alors soit on le garde dans des cuves pour les autres années, parce que vous savez que sur le champagne, en général, on n'est pas obligé de mettre un millésime, c'est-à-dire l'année de production, sauf sur les bouteilles millésimées, mais d'une façon générale, on n'est pas obligé de le mettre. Donc les producteurs arrivent à garder des vins qui sont anciens, qu'on appelle des vins de réserve, dans plusieurs années. Ça va un peu même aller jusqu'à 6, 7 ans, voire plus d'ailleurs. Et ces vins-là servent après à équilibrer la production du champagne. En général, quand on achète un champagne, on aime bien qu'il soit d'une année sur l'autre à peu près les mêmes caractéristiques. Mmh. Or, évidemment, comme on en a déjà parlé, la nature, elle ne fait pas forcément le nom de tout le monde. Donc, c'est avec ces vins de réserve qu'on rééquilibre un petit peu de façon à homogénéiser la qualité et les caractéristiques des vins sur plusieurs années. Oui. Alors, il y a ce vin qu'on appelle vin tranquille. Mmh. Une fois que ce vin est fait, on le met dans des bouteilles, on rajoute un petit peu de levure et de sirop, qu'on appelle le dosage. On ferme le bouchon. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que la levure va essayer de retrouver du sucre dans la bouteille, manger le sucre pour le transformer en alcool. C'est son travail de levure, oui. Elle fait ça. Oui. Comme la bouteille est fermée, ce processus-là, ça dégage du gaz carbonique. Le gaz carbonique, c'est des bulles.
C'est des bulles,
oui. Et comme le bouchon est fermé, le gaz carbonique, il reste à l'intérieur de la bouche, de la bouteille. Oui. On appelle ça, ce processus, la prise de mousse. En fait, c'est la deuxième fermentation qui doit se dérouler impérativement dans la bouteille. Mmh. Voilà. Une fois que la prise de mousse est faite, ça dure environ 6 mois, on passe les bouteilles dans des caves, sur des chevalets, ou alors maintenant, il y a des palettes, des gyropalettes qui sont plus modernes. On retourne la bouteille, parce qu'évidemment, cette levure, elle a laissé un petit dépôt, des petits résidus dans la bouteille. Mm-hmm. Et en fait, le fait d'avoir le bouchon en bas, c'est-à-dire la tête en bas, fait que toutes les levures, elles vont redescendre petit à petit, d'une façon naturelle, vers le goulot
de la bouteille.
De la bouteille. On les retourne de temps en temps, pendant 6 mois, je crois, on va les tourner petit à petit, de façon à ce que tout le trouble du champagne s'évacue. On surgèle le bouchon, c'est-à-dire l'endroit où il y a le bouchon de levure qui s'est installé, et on fait dégorger, c'est-à-dire on ouvre le bouchon, ce qui fait que toute la partie des petites levures, ce qu'on appelle le bouchon, sort de la bouteille et on remplace le manque à gagner par un petit vin naturel ou par une petite levure ou par une levure un peu plus sucrée. Et on referme la bouteille et le champagne, il est prêt. En fait, c'est ça la méthode de fabrication. C'est en 2 parties, c'est-à-dire la vinification d'un premier vin, qu'on appelle vin clair, dans lequel on adjoint de la levure et du sirop, et qui se transforme en champagne, enfin en champagne ou en effervescent. Hein. C'est ce qu'on appelle la méthode traditionnelle. Mmh. Voilà. La méthode traditionnelle, elle est valable pour les champenois, comme pour les créments sur lesquels il y a marqué méthode traditionnelle.
Et bien, comme ça, on en sait un peu plus maintenant. Voilà. Voilà. Quels sont vos coups de cœur du moment, là, on va penser par rapport aux fêtes, par rapport à ce qu'on va manger, par rapport, par exemple, sur un foie gras, qu'est-ce qu'on peut ouvrir comme
alors,
bouteille
le foie gras,
et se faire
le
plaisir.
Foie gras, c'est un grand débat, parce que moi, je passe mon temps à dire aux clients, évitez de boire des vins trop sucrés au début du repas. Seulement, le problème, c'est que les gens, ils mangent le foie gras au début du repas.
Ah oui.
En général. Alors, moi, un jour, j'ai conseillé à un client qui m'a pris quasiment pour un fou. Je lui ai dit, écoutez, si vous avez du foie gras, vous faites en entrée...
Continuez.
Vous faites en entrée un poisson, quelque chose, ou un apéritif avec un blanc sec et naturel. Vous passez après au vin rouge et vous faites les vins un peu sucrés ou liquoreux vers la fin du repas. Et je lui avais conseillé de manger le foie gras juste avant le fromage et d'avoir un vin blanc un peu riche, un peu rond, un peu gourmand au moment de la salade et du fromage et du foie gras.
Ah oui.
Voilà, de façon à ne pas se sucrer la bouche trop au début du repas.
Trop tôt, oui.
Voilà.
Oui.
Il l'a fait parce qu'il est obéissant, et gentil et compréhensif. Et puis, il a trouvé ça merveilleux.
Et oui, comme quoi, voilà, y a quand même des petites choses à savoir, là.
Voilà.
Et puis, sur des huîtres.
Alors, sur les huîtres, on a le choix. Hein. Si on aime le champagne, c'est vraiment bon sur les huîtres. Hein.
Le champagne ?
Ah oui,
il ne
faut pas avoir un champagne trop sec. Hein. Ils vont utiliser un champagne à base de pinot noir, 100%, qui soit un peu... Parce que dans le champagne, tous les assemblages sont permis, hein.
Oui.
On peut avoir les caractéristiques changent, bien sûr. Un champagne à base de chardonnay, c'est ce qu'on appelle le blanc de blanc, 100%. Il va être sec, un peu tendu, un peu minéral. Et puis après, les champagnes à base de pinot noir ou de pinot meunier, c'est ce qu'on appelle les blancs de noir. Eux, ils vont être un peu plus ronds, un peu plus gourmands, parce que le cépage pinot noir est un peu plus riche, un peu plus tenu. Mmh. Donc, ça va amener une structure un peu plus importante dans le champagne.
Oui.
Donc, ceux-là, on peut très bien les utiliser...
Justement sur des huîtres.
Sur des huîtres.
Que ce soit un peu rond.
Voilà.
Donc en fait, c'est ça, il faut s'aligner un peu sur l'aliment, est-ce que c'est un aliment acide, Et en fait, déjà grâce à ça, on peut avoir des...
Et moi, un jour, j'ai conseillé à un client d'accommoder son champagne avec du camembert.
Ah oui, c'est surprenant. Non.
Le champagne n'est pas forcément très adapté pour les plateaux de fromage, pour tous les fromages qui peuvent exister, mais pour le camembert, qui est un fromage à pâte un peu fermenté, un peu acide, un peu lactique, un champagne assez vif, ça réveille, ça fait un équilibre un petit peu vif, un peu tonique,
ouais,
qui met en valeur les caractères laitiers du camembert.
Eh ben, écoutez, on va finir là-dessus, mais c'est étonnant. Merci beaucoup, Jean-Paul Maslin.
Mais de rien. De
pour
rien,
cette
merci
belle
à vous.
Transmission. Merci Margot pour tes questions et ta participation. Eh ben, j'allais dire maintenant champagne, hein, pour tout
voilà.
dire. Voilà. Donc,
champagne, joyeuse... passez de bonnes fêtes.
Ben oui, passez des bonnes fêtes. Joyeuses fêtes à tout le monde.
À tout le monde.
À tout le monde. Hein, je vous retrouve en janvier 2023. Donc, bonne année un petit peu en avance. Merci à la technique, à Pierre Le Borgne. Et puis, à très bientôt. Encore une fois, bonne fête à tous.
Sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to face.
place instead of me. Always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely.